Je voudrais raconter par le menu mon ultime journée, dont je conserve un souvenir précis et agréable. Dans le même temps, j'ai honte d'avoir été si civilisée en ce jour de deuil anticipé. Alice nous emmène dans un parc merveilleux dont je refuse de me rappeler le nom. Elle a préparé un pique-nique exquis. Il n'existe pas d'amie plus attentionnée qu'Alice. Elle nous offre des cadeaux, à nous qui l'avons squattée et monopolisée pendant un siècle. Conspiration du destin, le temps est à son plus beau. Un grand soleil qui ne donne pas encore la chaleur de l'été. Ce 30 mai est parfait et ne parviendra pas à nous inspirer le désir de partir. Au parc sans nom, nous siestons toutes les trois. L'herbe est douce et accueillante. Comme nous nous entendons bien. Les heures passent comme dans un rêve. Alice nous contamine de son harmonie profonde. Pep lui assure que ce voyage l'a métamorphosée. À Paris, je ne serai plus la même. J'affecte de la croire. Et il y a belle lurette que je rate 100% de mes retours. Je me garde donc du moindre pronostic. L'heure est venue. Nous allons à l'hôtel récupérer les bagages. Nul à l'exercice de la séparation, je m'efforce de l'accélérer, histoire d'en combler le vide. Alice nous remet à chacune une lettre. « À ouvrir dans l'avion », insiste-t-elle. Je me vois pleurer. Pep se moque de moi et au milieu de ses sarcasmes m'imite. La sentimentalité nous rend ridicules. Je m'engouffre dans le taxi. Quand il démarre, Alice nous regarde jusqu'à ce que nous ayons disparu. Alors que nous errons dans l'entre-deux de nos émotions, le chauffeur nous avertit que nous avons un pneu crevé. « On va rater l'avion !» dit Pep. Je la rassure, nous avons une avance considérable. Le chauffeur s'excuse mille fois. Je fais observer à mon ami que crever au Japon est une expérience radicalement autre, ce qui ne parvient qu'à l'alarmer et à l'énerver. Preuve s'il en est que sa nature parisienne revient à la vitesse grand V. Le chauffeur remet ses gants blancs. Nous n'avons perdu qu'une dizaine de minutes. L'aéroport de Haneda n'a plus rien à voir avec la modique installation que j'avais connue 30 ans auparavant. C'est devenu un gigantesque centre commercial, déguisé en musée du Japon d'antan. Pep et moi l'arpentons en tous sens, éberlués qu'un tel montage existe. Nous dépensons nos derniers yens pour d'invraisemblables babioles, des parapluies nains en forme de lapin, d'aguichantes poupées en costume techno geisha, des mouchoirs trop étonnants pour jouer leur rôle, d'immangeables gâteaux reproduisant le pavillon d'or. « C'est pour offrir », dit mon ami pour se disculper. Nous savons que nous ne les donnerons pas. Nous aurions un peu honte. Et puis nous sommes trop fascinés par ces n'importe quoi, ce qu'en Belgique on appelle du brol. Mais nulle part on ne trouve un brol pareil. Nous poussons des cris de joie prétendument de second degré pour dissimuler notre émerveillement véritable. Nos logis seront encombrés pour toujours de ces objets insidieux dont la séduction disparaîtra sous des couches de poussière. Nous nous maudirons d'avoir cédé à ces sirènes. Pour l'instant, nous sommes sous leur charme, littéralement enchantés. Quand nos poches sont lessivées de leur ultime monnaie, quand nos bagages sont alourdis de mille sottises, nous dînons d'un bol de ramen et rejoignons la zone d'embarquement pour l'avion de Paris. Il nous reste 2 heures à attendre. Nous entendons parler français autour de nous et cela nous met mal à l'aise. Inévitablement, nous avons droit à des propos exaspérés sur ce qui ne va pas dans ce pays. Et voilà ce qui ne va pas dans le nôtre, dit Pep avec sagacité. Nous nous asseyons un peu à l'écart pour échapper à ce folklore. Pour occuper Pep, je lui tends à rebours. C'est un divertissement de qualité, regardez mon ami découvrir Wismans. À minuit, nous embarquons et décollons. Je dissimule ce que je ne peux vivre que comme un échec. Quitter une énième fois le Japon. Je ne peux pas attribuer cet arrachement à une puissance extérieure. Je n'ai plus 5 ans. C'est un abandon délibéré. L'âge adulte est une imposture. Je repense à ma longue enfance, à mon interminable adolescence, pendant lesquelles je n'ai pas cessé d'aspirer à mes retrouvailles avec ce pays Graal. Si l'on m'avait annoncé qu'un jour, je monterais de mon plein gré dans un avion cherchant à se dessouder de la terre sacrée, j'aurais éprouvé à mon endroit un mépris incrédule. L'actualité me sauve de ce désastre intime. Il s'agit de consoler Pep qui, à son tour, découvre la tristesse de quitter le Japon. Je ne peux pas identifier son chagrin au mien. J'essaye néanmoins de la secourir. Elle finit par se calmer et par chercher un ersatz de sommeil. S'il est un art dans lequel je n'excelle pas, c'est celui du retour. Pourtant, nul n'en a autant l'expérience que moi. Comme quoi, elle n'enseigne rien. Je ne cesse de rater mes retours. On connaît l'enthousiasme, la conviction que les révélations inouïes dues au voyage vont changer notre vie et peut-être même celle de nos proches. On se sent dilaté. On s'attend à ce que la métamorphose soit perceptible. On verse une larme de regret à l'idée de réintégrer son foyer, qu'on ne va pas tarder à défigurer de toutes les horreurs dont on a encombré son bagage. Et puis reprend le quotidien. La béatitude culmine, on est persuadé de jouer au mieux la mélodie et rebattue des retours. On y est beaucoup plus féru. Chaque rituel a acquis une profondeur vertigineuse, jusqu'à la première question. Vous étiez au Japon, n'est-ce pas ? Heureux comme Ulysse, on commence son récit avec moins de talent qu'on avait cru, et au bout d'une demi-seconde, on s'aperçoit que son odyssée n'intéresse pas. On vous a interrogé par politesse. Tout le monde vous interrogera de façon identique et aura une occupation obligeant à interrompre votre récit. Mais ne vous avisez pas pour autant de ne pas répondre, de dire par exemple que vous êtes encore sous le charme et que vous préférez différer votre réponse, on vous jugera égoïste et désagréable. Il est indispensable que vous tentiez de raconter, offrant ainsi à votre auditoire l'occasion de se dire que vous êtes mortellement ennuyeux. Cela pourrait paraître anecdotique si ce n'était à l'image de ce que l'on ne tardera pas à éprouver soi-même. On se rappelle le magnifique voyage, et pourtant on se rend compte qu'il a été absorbé par son gouffre intérieur. On ne voit plus de remous à la surface de son océan redevenu étal, secoué seulement par d'habituels embarras. La nuit, on se remémore les merveilles entrevues, en se demandant pourquoi leur lumière nous éclaire si peu. Il faut intégrer ces nouvelles richesses, déclarent les experts modernes. À cette fin, ils nous proposent des techniques telles que la solitude, la réflexion, le silence. Autant de retraites que j'ai essayées combien souvent. Je n'y arrive pas. Sans doute est-ce cette impuissance qui m'a si vite rendue incurablement nostalgique. La nostalgie est l'expression d'un échec, d'une perte. Au moins la ressentons si fort qu'elle s'inscrit dans le squelette. C'est ainsi que chaque voyage m'appauvrit. Ce qui subsiste est moins la beauté que ce qu'elle a creusé en moi. Mon talent, c'est le manque. Il n'y a pas de limite à ma capacité de carence. Nous atterrissons. Je mets Pep dans un taxi pour qu'elle aille récupérer son lapin. J'éprouve le besoin de rentrer en RER. Il me semble qu'il me permettra de mieux renouer avec le réel. Saisissant contraste avec l'équivalent nippon que je n'ai pas cessé d'emprunter pour aller à Nerima. Quelle est la principale différence ? J'ai du mal à l'exprimer. Au-delà du sale et du sordide, il y a le malaise. Nous nous arrêtons à Aulnay-sous-Bois, un si joli nom pour... comment dire ? Nous traversons Drancy. Comment ne pas se sentir mal ? Les banlieues japonaises, elles, ne donnent pas envie de se pendre. Revenu de chez la pet-sitter, Pep m'appelle. C'est bizarre ici, non ? Dans la rue, j'ai l'impression que les gens sont des goujats. C'est exagéré, mais je comprends. La vie reprend. C'est la catastrophe habituelle. Si peu que l'on raconte de son voyage, tout le monde s'en fiche. Néanmoins, on vous demande si vous êtes allé voir votre nounou et on s'offusque de votre réponse. Inutile d'essayer d'expliquer que des retrouvailles forcément suivies d'une énième séparation vous auraient démoli et que non, étrangement, votre nounou n'a pas envie de quitter le Japon pour s'installer avec vous. On vous considère comme une brute. Il y a aussi ceux qui sollicitent vos bonnes adresses tokyoïtes ou kyotoïtes. Mon oubli des noms oblige, je n'ai rien à dire. On m'accuse d'être égoïste et de vouloir garder pour moi mes lieux secrets. Quand cela serait ? Serait-ce un crime si condamnable ? Seul le travail dans lequel je m'engouffre me sauve. Je m'ensevelis sous le courrier en retard et les entretiens. Le mois de juin commence sur les chapeaux de roue. Je participe à la conférence de presse de rentrée. Il s'agit désormais de parler de psychopompe. Le titre de mon livre arrive à point. Je reviens d'un monde autre, si lointain, si profond, si déchirant que sa seule évocation me transit. Il existe tant de façons de mourir de son vivant. Et de cette mort-là aussi, il importe de revenir. Je suis une revenante. C'est ainsi qu'on appelle les fantômes et les zombies. Je ne suis partie que 11 jours, mais la destination a tant compté qu'elle a suffi à me restituer mon identité d'étrangère. Je suis l'étrangère intransitive, celle qui ne précise pas d'où elle revient. Pep a découvert entre-temps que tout le monde a une théorie sur le Japon. De préférence ceux qui n'y sont jamais allés. Cela m'amuse beaucoup, ça la met très en colère. C'est pourquoi je ne raconte pas mon voyage, lui dis-je. Comment ne pas raconter un voyage pareil ? S'insurge-t-elle. Vraie question. Je lui suggère de publier ses photos. Mon ami hausse les épaules. J'insiste. Ce n'est pas pour moi, finit-elle par dire avec l'air de « qui ne mange pas de ce pain-là ». Je préfère montrer mes photos des pays que je ne connais pas encore. Est-ce à cet instant que j'ai commencé à y songer ? Sans doute. Je suis partie. Je suis revenue. La belle affaire. Oui, mais je n'ai fait que cela. Toute ma vie. Même le lieu où j'habite n'est pas celui que j'ai choisi. Le seul endroit que j'aurais élu, je l'ai quitté. Je viens encore de l'abandonner. Quid de cette aberration ? Je n'y comprends rien. Alors je l'écris.